Ce matin, avant d'entrer dans ce temps de prédication, j'avais à cœur qu'on puisse se centrer sur Dieu en pensant à nos frères et sœurs qui sont touchés de près ou de loin par cet accident qui a eu lieu en Tanzanie. Vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle, une équipe de jeunesse en mission avec différents leaders ont été impliqués dans un accident de bus en Tanzanie. C'était samedi de la semaine passée. Et c'est une tragédie. Il y a 12 personnes qui sont décédées, plusieurs personnes qui sont blessées, des gens que l'on connaît peut-être aussi de près ou de loin. En tout cas, l'église du 7, l'église sœur ici à Tavannes, eh bien, ils sont affectés par le décès de Zabulon, qui était quelqu'un proche de leur église. On est aussi en pensée avec Joël et Guy Tseller. Joël a été grièvement blessé. Elle a pu être rapatriée en Suisse vendredi. Elle est éveillée et puis elle est dans une longue phase de convalescence. On peut prier pour elle, pour les douleurs qu'elle est en train de subir. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te demandons ton amour, ta présence, ta consolation face à cette tragédie. Seigneur, les mots nous manquent et puis on est dans l'incompréhension de pourquoi des choses comme ça se passent, Seigneur. Nous te prions d'accorder ta présence aux familles en deuil, aux personnes qui ont perdu un être cher. Nous te prions de soutenir ceux qui sont encore dans la convalescence, de blessures physiques, de blessures psychiques, émotionnelles, Seigneur. Toi, tu es celui qui rejoint chacune et chacun dans ton amour, avec ta compassion, Seigneur. Nous te demandons de les bénir, de les garder en toi, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu nous donnes des cœurs ouverts aussi à ta parole ce matin, alors qu'on va continuer de méditer les béatitudes. Eh bien, Seigneur, que tu puisses m'inspirer et Seigneur, que tu puisses parler au travers de ce message. Gloire à ton saint nom, Jésus. Amen. La semaine passée, on est entré dans le début d'une série sur les béatitudes du sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. Et puis les béatitudes, c'est comme ces paroles d'introduction du sermon. Je fais un petit peu de pub pour moi-même, je vous encourage à aller écouter cette première prédication sur le site internet de l'EMT, elle est disponible si vous avez manqué la première partie. Aujourd'hui, on est dans la partie 2 sur 3. Alors, c'est le début de cet enseignement de Jésus qui parle du royaume, qui parle du règne des cieux. Et c'est, en fait, c'est un programme de vie pour manifester la justice de Dieu, pour manifester des relations saines, des relations constructives, pour vivre une vie de disciple et une vie qui est à contre-courant. Une vie à contre-courant de ce que l'on peut voir dans la société. Puis dans la première prédication, on a vu les trois premières de ces béatitudes. La première triade, comme ça, il y a trois fois trois béatitudes dans ce passage. Et on a parlé de ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, avec cet encouragement de dire, eh bien, on veut se mettre dans cette situation de pauvreté, c'est-à-dire de faire de la place à Dieu, finalement, dans nos vies, faire de la place pour que Dieu vienne y mettre, lui, son contenu. Le royaume des cieux leur appartient à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. On a parlé de ceux qui pleurent. Un encouragement à vivre pleinement nos douleurs, à y faire face, à les traverser avec Dieu, plutôt que d'essayer de se distraire, d'éviter les choses. Eh bien, ceux-ci, ils seront consolés. Puis on a parlé de ceux qui sont doux, mais on a utilisé ce terme débonnaire, ceux qui restent bons jusque dans la faiblesse. Eh bien, c'est eux qui hériteront de la terre. Ces béatitudes, ça soulève les questions, des questions du style, mais est-ce que c'est des promesses, les promesses qui y sont rattachées, est-ce que c'est des promesses qui sont pour maintenant? Est-ce que c'est des promesses pour l'avenir? Est-ce que c'est des promesses pour la fin des temps? Jésus, il parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux, une réalité qui est présente, que l'on peut recevoir. Le royaume des cieux s'est approché de vous, dont on peut hériter. Le royaume des cieux, une dimension, un vécu dans lequel on peut entrer ici, maintenant. Mais le royaume des cieux, vécu aujourd'hui, surtout comme un avant-goût des bénédictions promises, du royaume pleinement manifesté, dans la victoire manifestée de Jésus-Christ, dans l'espérance de son retour. Deuxième triade des béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. La faim et la soif, c'est quelque chose d'inconfortable. Il y a une grande marque de bar chocolatée qui a comme slogan dans ses pubs « T'es pas toi quand t'as faim ». Je ne sais pas si vous connaissez cette référence. « T'es pas toi quand t'as faim ». En anglais, il y a un terme qui fait le jeu de mots sur « hungry » et « angry ». Et puis on dit « t'es hangry ».« Hungry », c'est ta faim. « Angry », t'es énervé. Donc, t'es énervé à cause de ta faim. Parfois, la faim, elle révèle des côtés un peu plus sombres hein, de nos personnalités. Moi, ça m'arrive de le voir dans ma patience. Je le vois aussi chez mes enfants. Hein, quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui cloche, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont si excités ?» tout ça. Et tout d'un coup, on prend les 4 heures et tout va mieux. Tout va beaucoup mieux. On n'aime pas avoir faim. C'est pas confortable, c'est assez désagréable comme sensation, ce sentiment de ne pas avoir réussi à satisfaire ici ce qui est vide, c'est rude. Moi, je trouve ça difficile. Bon, là, je suis en train de parler de la conception de la faim en 2024 dans le Jura bernois, dans notre société suisse. Voilà, c'est la faim, c'est une petite faim. Moi, j'avais un prof qui disait, quand on lui disait « j'ai faim, monsieur », à l'école secondaire, il nous disait « non, t'as pas faim, t'as envie de manger ». Parce que la faim, c'est une réalité implacable pour certaines personnes. Pas juste une question d'inconfort, de petits besoins qu'on ressent, non, c'est une question de survie pour certaines personnes, la faim. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'aujourd'hui, on choisit d'organiser une soupe de carême avec toutes les églises du village de Tavannes, avec pour but, pour cette soupe de carême, eh bien de récolter des fonds pour les organisations telles que Stop Pauvreté, Pain pour le Prochain, deux organisations qui ont pour but, finalement, eh bien d'aider les personnes qui sont dans le besoin, ceux qui, justement, entrent dans cette case des personnes qui ont faim et soif, réellement faim et soif, d'une manière très littérale. Mais ici, Jésus, il parle de faim et de soif de la justice. Faim et soif de la justice. À quoi est-ce qu'on pense quand on parle de justice? Dans la Bible, on trouve des paroles telles que « chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Et tant d'autres. Une mini-sélection de quelques passages qui parlent de justice. Alors oui, la justice biblique, elle a évidemment cette notion d'être en règle, d'être en paix avec Dieu, d'être déclaré juste par lui. Mais on remarque dans la Bible que la justice, c'est surtout une notion qui est très transversale, en fait. Une notion qui concerne les rapports des humains entre les humains. Et les prophètes le saisissent bien, le transmettent bien. Ils parlent de justice, de relations justes, de rapports humains équitables, d'interactions constructives, bénissantes, les uns pour les autres. Quand on parle de justice, on pense aussi souvent à ce qu'on appelle la justice rétributive, c'est-à-dire donner aux gens ce qu'ils méritent. Tu t'es bien comporté, eh bien voici une récompense. Tu t'es mal comporté, voici une punition. Bien, la justice biblique, il y a quelque chose de ça, mais elle va bien au-delà. Elle va bien au-delà. En tout cas, elle a un angle d'approche qui est supplémentaire. C'est une justice qui donne selon les besoins des personnes. Selon les besoins plutôt que les mérites. C'est la justice de Dieu en faveur des veuves, des orphelins, des immigrés, du pauvre, de l'opprimé. Ça, c'est comment la justice de Dieu, elle se manifeste. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est-à-dire heureux ceux qui n'arrivent pas à se satisfaire de ce qu'ils voient, qui ne se contentent pas d'un statu quo. Non, on est appelé à avoir faim et soif d'un monde plus juste. T'es pas toi quand t'as faim. On est appelé à reconnaître qu'il y a quelque chose qui joue pas quand on regarde autour de nous. C'est ça, avoir faim et soif de justice et aspirer à quelque chose de meilleur. Ça peut par exemple signifier se laisser interpeller sur la façon dont on consomme. Dans les magasins, on est souvent appelé à choisir entre le commerce équitable et puis l'option standard. Mon professeur d'éthique à la HET Pro nous disait « Moi, j'avais trop envie d'aller dans les magasins puis de mettre sur les options standards issues du commerce inéquitable. » Pour remettre un peu les choses peut-être en perspective. Bien sûr, l'invitation de Jésus, elle va bien au-delà du choix de banane que tu fais à la Migros. Avoir faim et soif de justice, c'est rester alerte pour comprendre. Comment bien traiter ton prochain dans tellement, tellement de domaines, de tellement de choix de vie. L'éducation des enfants, la gestion de nos finances, la question de la générosité, le soutien, ou bien la défense de ceux qui ne sont pas respectés, pas honorés, qui n'ont pas des conditions de vie dignes, des traitements dignes. Pensez aux malades, aux souffrants autour de nous. Plein de façons de penser à la justice. Car ils seront rassasiés. Car ils seront comblés. Ce besoin de justice, il sera rassasié. Ça, c'est une promesse magnifique. Ça, c'est un espoir qui est bon. Jésus, il est en train de dire que ceux qui vivent selon le royaume des cieux, ils auront cette faim et cette soif de justice rassasiée. Ses disciples recevront ce à quoi ils aspirent. Alors, de manière immédiate, quand on est agent de la justice, quand on fait une action qui honore le prochain, eh bien, il y a cette beauté de voir que Dieu est à l'œuvre, que Dieu agit et qu'il y a une bénédiction pour cette personne. Mais les disciples verront les fruits de leur solidarité, de leur amour, de leurs actions de soutien, mais c'est cette certitude aussi que ces quelques bribes de satisfaction qu'on voit aujourd'hui, qui semblent parfois bien maigres, sont un avant-goût de la pleine satisfaction qu'on aura un jour à la consommation de toutes choses. Une autre façon de vivre des relations justes, c'est en se focalisant sur la bonté. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Ah ben voilà, une béatitude qui est facile à comprendre, qui est très très logique. Ça ne fait pas de chichi, quoi. Tu es bon, on fera preuve de bonté pour toi. C'est du donnant-donnant. Donc ça, c'est chouette. Ce qui est intéressant, par contre, ici, et qui demande un peu de recherche, je pense, c'est le terme qui est utilisé pour parler de bonté. Eleemon en grec. C'est un terme qu'on retrouve seulement une autre fois dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, qui parle de la compassion du Christ en tant que grand prêtre. Par contre, c'est un terme qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament, dans la version grecque de l'Ancien Testament, celle qui s'appelle la Septante. Et presque essentiellement, ce terme Eleemon, il est utilisé pour décrire l'Éternel. Et là, il y a un passage très important, connu aussi, qui utilise ce terme dans Exode, Exode 34. C'est lorsque Dieu se manifeste à Moïse dans le cadre du don des tablettes de la loi. L'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la millième génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième, voire même la quatrième génération. » L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce. Plein de compassion et de grâce, ces deux qualificatifs, ils vont presque toujours ensemble dans les textes de l'Ancien Testament qui décrivent Dieu. Plein de compassion et de grâce. Si vous avez été attentif à ce que vous avez chanté ce matin, on a chanté dans ce chant « Mon Dieu est bon », la compassion, la grâce, la bonté de notre Seigneur. On a utilisé justement « compassion » et « grâce », ces deux qualificatifs. Et voilà que Jésus décrit les disciples de ses béatitudes, comme étant des personnes qui font preuve justement de compassion, qui font preuve de grâce. Il nous appelle finalement à refléter le caractère de Dieu, refléter, à être des personnes qui manifestent son caractère. Comme l'Éternel fait preuve de compassion, de grâce, de bonté pour nous, eh bien nous aussi, nous sommes appelés à le faire autour de nous. Ce Dieu qui s'accommode de travailler avec des humains pécheurs, rebelles, imparfaits, ingrats, eh bien c'est un Dieu qui reste bon envers eux. Parce qu'il fait preuve d'une justice qui répond aux besoins avant de répondre aux mérites. Et c'est en ce Jésus qu'il y a le pardon, cette bonté qui se sont manifestées pleinement, qui se sont manifestées sans réserve de la part de Dieu. Il s'est offert pour le pardon de notre péché. Alors si on est appelé à manifester sa compassion, sa grâce, est-ce qu'il y a un pardon que j'ai à accorder? Quelque chose qui me retient, qui me travaille, quelque chose que je retiens contre quelqu'un? Est-ce que ce matin, j'ai un pardon à accorder? Ce terme de la bonté, il a été traduit de façon intéressante. Dans d'autres traductions, on parle de miséricorde. La miséricorde, ça c'est un terme qui est bien chrétien. La miséricorde. Je ne sais pas si vous, à la pause, au boulot, ou bien dans vos activités extra-église, est-ce que vous utilisez souvent ce mot miséricorde ? Certains ont certainement déjà entendu cette explication du mot miséricorde qui je trouve originale, qui est facile de décrire la miséricorde finalement. C'est de dire la miséricorde, c'est voir quelqu'un dans la misère et lui lancer une corde pour en sortir. Voir la misère et tendre une corde. C'est être un bon samaritain finalement. C'est voir des besoins et y répondre. À première vue, ces béatitudes, ça pourrait sembler comme quelque chose qui nous encourage à la satisfaction, à se poser. On dit heureux, heureux, ceux qui sont heureux, ils sont heureux. On est bien content, mais on peut en rester là, on est heureux, quoi. Mais c'est toujours pour ceux qui aspirent à plus, à mieux, à plus de justice, plus d'amour, plus de compassion. Et elle nous invite à nous mettre en mouvement. Alors, j'aimerais t'inviter aussi à penser à ça. Quelle situation de détresse tu vois autour de toi ? Qui est-ce qui autour de toi est dans la misère et à qui tu pourrais tendre cette corde ? Aider tout concrètement. C'est un vrai reflet d'une attitude de cœur. Et Jésus a bien des choses à dire sur notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur, dans la pensée biblique, c'est ce centre de la personnalité, c'est ce qui reflète ce qu'il y a au fond de nous, c'est nos tripes, ce qu'il y a en nous. Et ici, il n'est pas question forcément de pureté morale, mais surtout de droiture, de simplicité en fait, d'être sans pli, d'être sans repli caché devant Dieu, d'être simple, d'être droit, d'être soi-même. Comment est-ce que je me présente devant Dieu ? Est-ce que je viens auprès de Dieu avec des arrière-pensées ? Est-ce que je fais tout pour montrer mes bons côtés à Dieu ? Jésus, il avait cet exemple du docteur de la loi qui prie avec la poitrine bien bombée comme ça et qui dit « Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme les gens de ce monde, surtout pas comme ce collecteur d'impôts, regarde tout ce que je fais pour toi. » Je prie, je jeûne, je donne ma dîme, etc. Eh bien, celui-ci, il n'est pas déclaré comme juste par Dieu. Voilà ce que Jésus dit. Et il parle du collecteur d'impôts qui s'humilie devant Dieu et qui dit « Aie pitié de moi, aie pitié du pécheur que je suis. » Parce que la sainteté sans l'humilité, c'est tout simplement de l'orgueil. La sainteté sans l'humilité, c'est tout simplement de l'orgueil. Alors oui, venons à Dieu avec un cœur pur, un cœur droit, un cœur qui sait qu'il doit implorer sa grâce. Ces paroles de Jésus ici, c'est une allusion, voire même une citation directe du psaume 24. « Qui pourra accéder au mont de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte, l'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge, qui ne jure pas pour tromper son prochain. » Voilà la droiture, la simplicité morale devant Dieu qui est attendue. C'est l'intégrité dans les relations, c'est la loyauté. On ne peut pas dissocier ce qu'il y a en nous, avoir plusieurs parties. Ça veut dire que nos dispositions intérieures, la pureté du cœur, et puis notre comportement visible, ici nos mains nettes, nos mains innocentes, elles vont ensemble, elles ne sont pas dissociées. Et quelle magnifique promesse pour ceux qui vivent cette pureté de cœur, cette cohérence de vie et de parole devant Dieu, devant leur prochain. Parce que la promesse, c'est la suivante, ils verront Dieu. On a parlé de ce passage de l'Exode juste avant, qui décrit le Seigneur comme étant plein de compassion et de grâce, de bonté. Et tout un enjeu dans ce passage ici biblique, c'est ce passage de l'Exode, c'est que où Dieu il s'approche des Israélites, et puis en particulier de Moïse, c'est le fait que sa gloire, sa présence manifestée, elle est enveloppée d'une nuée, elle est enveloppée de feu. Et Moïse, juste avant, demande à voir la gloire de Dieu. Dieu va se manifester à lui, mais lui dit, enfin, il le cache dans le creux du rocher, il le couvre de sa main, parce que l'homme ne peut pas voir sa face et vivre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En Jésus-Christ, tout change. On a cet accès garanti auprès de Dieu, parce que c'est lui-même qui purifie les cœurs. David l'avait bien compris hein, quand il prie « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est placer sa foi en Dieu avant tout pour faire son œuvre en nous. Et oui, en Jésus-Christ, nous voyons Dieu. Quelle grâce magnifique! Le pardon est là, la présence de Dieu est là. Et moi, où suis-je? Où est mon cœur? Est-ce que ce matin, il y a quelque chose que je dois mettre en règle avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a essayé de nous dire, un domaine où il a pointé le doigt pour nous montrer qu'il aimerait avoir sa place là, qu'il aimerait intervenir, mais qu'on doit le laisser intervenir? Cette deuxième triade des béatitudes, on l'a vu, c'est avoir faim et soif de justice, se mettre en route, pour la justice, faire des pas concrets avec le Seigneur, faire preuve de bonté, de miséricorde. On a parlé du pardon à accorder, ou bien d'une corde à tendre autour de nous, puis on a parlé d'avoir un cœur pur. Se mettre en ordre avec Dieu, être simple, sans repli devant Dieu. J'aimerais conclure avec ces paroles de Jean et ce magnifique texte qui parle de vivre en tant qu'enfant de Dieu dans 1 Jean 3. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tout à nouveau, on voit pour vivre ces béatitudes, on a besoin d'être visité, d'être touché par toi, d'être saisi par ta grâce et ton amour. Seigneur, je te prie que tu nous donnes cette faim, cette soif de la justice, que l'on puisse regarder le monde avec ton regard, que l'on puisse se laisser interpeller par ce qui te touche, par ce qui est important à tes yeux, Seigneur, et que ce qui est important à tes yeux devienne une priorité pour nous. Seigneur, je te prie que l'on puisse faire preuve de bonté en tout temps. Donne-nous la force d'être bon, d'être plein de miséricorde, d'être des ressources autour de nous. Et Seigneur, nous voulons aussi nous tenir devant toi en cohérence dans ce que l'on dit et ce que l'on fait. Venir devant toi avec un cœur droit, un cœur pur, mais surtout compter sur toi pour notre purification, Seigneur. Merci pour ton œuvre à la croix Merci parce que tu as tout accompli pour nous permettre de te reconnaître, de te connaître, de te voir à l'œuvre, de te voir, Seigneur, face à face. Quelle grâce et quel privilège d'être appelés tes enfants, Seigneur. Amen.